France Inter, le 18-20.
Dans une semaine maintenant, on va s'ouvrir la COP24 en Pologne, au cours de laquelle on ne fera pas forcément figure de bon élève pour se tenir à nos promesses de la COP21. Il reste un long chemin à faire pour nous comme pour les autres d'ailleurs. Et pendant ce temps, les émissions, elles se poursuivent, les gaz à effet de serre sont bien là aussi. Il y a un autre facteur qui nous concerne, nous, qui est plus franco-français, on ne peut plus l'ignorer. Le consensus autour du climat n'est plus le même. Aujourd'hui, on parle de transition juste parce qu'il n'est pas évident pour tout le monde. Et c'est peut-être l'une des leçons que nous ont envoyées ces derniers jours les Gilets jaunes. On commence ce soir donc avec le plus neuf, avec le projet de loi mobilité qui a été présenté ce matin par Elisabeth Borne, qui est là avec nous ce soir. Vous le savez, on ne parle plus de taxes poids lourds, on ne parle plus de péages urbains. En revanche, on parle de plus de bornes pour recharger des voitures électriques quand elles sont là. On parle de primes des employeurs pour le covoiturage sur la base du volontariat. On parle de voies spéciales pour le covoiturage lorsque c'est possible. On parle de 350 millions pour favoriser le vélo en ville. On parle de réguler les nouveaux modes de transport urbain que sont par exemple les trottinettes. On viendra aussi sur l'idée déjà évoquée des grandes infrastructures ferroviaires type TGV qui sont moins là. Le but est de favoriser désormais les transports du quotidien. Et puis tout le territoire sera désormais couvert par une autorité organisatrice de la mobilité dont on vous expliquera, vous définira ce qu'elle fera et ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce que vous en pensez donc, vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire malgré toute la bonne volonté du monde? C'est à vous de nous le dire et c'est maintenant que ça commence.
Fabienne Synthèse. Le téléphone sonne.
Philippe, c'est vous qui commencez. Soyez le bienvenu et bonsoir.
Bonsoir, moi je voulais plutôt amener un témoignage. Voilà, moi j'habite Bordeaux-Centre et je travaille à Saint-Médard-en-Jalles, qui fait partie de la communauté urbaine de Bordeaux. Je fais un trajet quotidien d'une vingtaine de kilomètres, hein, 22 ou 23. Au début, j'utilisais les transports. Il me faut trois changements pour faire ces 23 kilomètres. Le matin, en démarrant très tôt, à 6h30, il me faut 1h15. Et le soir, avec les embouteillages et les différents transports, il me faut 1h15, voire 2h, pour faire ces 23 kilomètres. Donc, autant vous dire que j'ai renoncé et je prends ma voiture. Et pourtant, les transports, je m'aperçois quand même que je les paye. Je les paye au travers d'une cotisation URSSAF. Je crois qu'elle est le prélèvement est, je crois, de 2% sur le salaire. Vous vérifierez. Je le paye au travers des impôts locaux, des impôts fonciers. Je le paye lorsque j'achète mes tickets. Et au-delà de ça, je constate que l'offre, elle est minable.
Donc, on parle de quel transport, Philippe, pardonnez-moi? On parle de quoi quand on parle de transport? Est-ce qu'on parle de tramway, de bus, pour avoir une idée?
À Bordeaux, on a à la fois le tramway, on a des bus, on a le VQ. Moi, j'utilisais le tramway et le bus.
D'accord. Voilà, c'était pour vous.
Donc, j'utilise ma voiture et lors d'une réunion de quartier, je suis intervenu auprès de notre élu, qui est M. Jouté, mais bon, je pense qu'une autre étiquette j'aurais eu la même réponse. Mais je lui ai dit, l'idéal pour moi et d'autres, hein, parce que je suis pas tout seul à faire le trajet de Bordeaux-Centre vers l'extérieur pour me rendre à mon travail, l'idéal ce serait que les parkings extérieurs qui sont en périphérie de Bordeaux, rattachés au tramway, soient ouverts la nuit pour qu'on puisse laisser nos voitures et rentrer sur Bordeaux par les transports en commun. Et là, il m'a répondu, on va voir ce que ça coûte. Et rien n'a été fait. Donc, je suis pas persuadé qu'on prenne vraiment en compte les problèmes de pollution et les problèmes de transport. Lorsqu'il s'agit de construire un stade pour l'Euro 2016, sur une zone inondable, entre guillemets, on se préoccupe pas du coup. Pour faire un pont levant, pour faire passer des paquebots pollueurs, on se préoccupe pas du coup. Mais pour nous, usagers au quotidien, là, il faut regarder. Est-ce qu'on a les moyens d'ouvrir et d'agrandir des parkings extérieurs?
Philippe, j'ai une dernière question pour vous avant de permettre à nos invités de vous répondre. Est-ce que vous avez imaginé le covoiturage? Est-ce que c'est possible là où vous êtes par rapport à votre entreprise ou pas du tout?
Je pense que le covoiturage n'est pas adapté aux enjeux. ça peut être des mesurettes occasionnelles, mais dans mon cas, c'est pas du tout adapté. Et je ne sais pas si ça peut être adapté pour qui que ce soit.
Et alors, si on vous donnait une prime, je vous le dis parce que c'est ce qu'il y a dans le plan mobilité, donc j'en profite puisque je vous tiens, Philippe, pardon. Si on vous donnait une prime de 400 euros par an pour aller au travail à plusieurs dans votre voiture, est-ce que vous jugeriez que c'est plus intéressant? Est-ce que vous essayeriez ou pas?
Non. Sincèrement, non. Moi, je crois au transport en commun.
D'accord. Bon, bah écoutez.
Moi, je crois au transport en commun. Il n'y a que ça pour fluidifier et pour avoir une solution pour désengorger les villes et éviter la pollution.
Merci.
Ce n'est pas au travers des transports individuels, que ce soit en covoiturage ou en ce que vous voulez, qui va résoudre le problème.
Merci.
Il n'y a que les transports en commun.
Merci beaucoup. Alors, transport en commun, quand on habite pas très loin de Bordeaux, on comprend. Quand on habite dans un périmètre qui est plus large, c'est peut-être une autre histoire. On entendra évidemment des auditeurs qui habitent aussi plus loin. Mais merci beaucoup, Philippe, pardon de vous avoir un petit peu cuisiné, mais ça nous permet de faire un peu le tour de la question. Pour vous répondre, Elisabeth Borne, donc, est la ministre des Transports. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être là. Lucas Chancel, en direct avec nous.
Bonsoir.
Également. Bonsoir, monsieur Chancel. Vous êtes co-directeur du laboratoire des inégalités mondiales. Vous êtes chercheur à l'IDRI Sciences Po. Vous avez écrit Insoutenables inégalités pour une justice sociale et environnementale et c'est publié au petit matin. Elisabeth Borne, moi, il y a plusieurs choses qui m'intéressent dans ce que nous raconte notre auditeur. D'abord, c'est l'idée que il croit au transport en commun, notre ami, j'ai oublié son prénom déjà, Philippe, je crois. Il croit au transport en commun, sauf qu'il peut pas et qu'il n'y arrive pas. Quel dommage, au fond. Mm-hmm. Vous avez un candidat, là, et au fond, il n'y a rien qui corresponde à ses attentes.
Je crois que ce qu'exprime Philippe, c'est ce que vivent beaucoup de Français, c'est le fait que les déplacements de tous les jours, c'est finalement une source de difficulté. Et ça peut être le cas quand on est autour d'une métropole comme Bordeaux, parce qu'on est dans des problèmes d'embouteillage, de congestion, ou qu'on est dans des transports en commun saturés. C'est aussi le cas quand on est dans des zones plus éloignées des grandes villes, dans lesquelles, là, pour le coup, on manque de solutions alternatives et on est un peu prisonnier du tout voiture. Moi, je crois évidemment au transport en commun. Quand on est effectivement dans une grande ville, les transports en commun, c'est la bonne solution. Alors ensuite, effectivement, il y a un travail à faire pour que les horaires soient adaptés, pour qu'on puisse passer facilement du tramway au bus, éventuellement qu'on puisse terminer avec du covoiturage ou avec de l'autopartage. En tout cas, ce que vous exprimez, Philippe, c'est l'importance de ces transports du quotidien, parce que c'est un temps très important dans la journée, qui doit être notre priorité à tous. Et effectivement, vous le disiez, on a pendant des années plutôt mis l'accent, en tout cas pour l'État, sur le tout TGV. On l'a fait au détriment des transports du quotidien et des infrastructures, des réseaux ferroviaires qui permettent d'avoir les trains régionaux, les TER, des routes aussi qui se sont dégradées. Et je pense que vraiment le sens de la loi que je porte, c'est aujourd'hui, il faut s'occuper de ces transports du quotidien, faciliter ces transports, notamment par de l'information voyageur pour permettre de passer facilement d'un mode à l'autre.
Mais là, ce qu'il nous explique, Philippe, justement, c'est que il a trois changements. Tout ça, c'est très compliqué. Enfin, quand on va travailler le matin, honnêtement, c'est très compliqué. Donc, passer d'un mode à l'autre, pourquoi pas. Mais je comprends que ça puisse être synonyme de galère pour certains. Lorsqu'il prétonise, par exemple, ce fameux parking qui serait ouvert plus tard ou qui serait ouvert la nuit, ce qu'on entend beaucoup, ça revient dans les questions, c'est pourquoi pas les transports en commun, bien sûr, mais il faut les accompagner de quelque chose. Le parking, par exemple, ça fait partie des accompagnements et de la facilité pour ensuite aller rejoindre son chez-soi.
Si
l'un ne va pas avec l'autre, comment ça marche?
Mais ça fait partie, pour le coup, des responsabilités des collectivités localement, d'avoir peut-être aujourd'hui, je pense que c'est important, une vision qui n'est pas simplement d'organiser les transports publics, mais d'avoir aussi en tête qu'il faut utiliser des parkings, que du coup, on peut dans ces parkings avoir des véhicules plus partagés et d'avoir une vision globale du déplacement porte à porte.
À cet endroit-là, Elisabeth Borne, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas obliger, au fond, disons les choses comme ça, obliger les villes à créer, à aider aux solutions alternatives? Comme le dit Philippe, oui au transport, si j'ai une solution alternative, on ne lui offre pas.
Je pense que aujourd'hui, et c'est vraiment un des messages que moi je porte dans la loi que j'ai présentée ce matin, c'est qu'il faut avoir une vision d'ensemble de ce qui fait le trajet porte-à-porte, comme on dit. Peut-être que par le passé, les collectivités se sont plus vu leur mission comme le fait d'organiser le transport public, les réseaux de bus, les réseaux de tramway. En fait, quand on doit aller de son domicile à son travail ou revenir de son travail, c'est une solution globale qu'on doit avoir. Et ça passe effectivement, notamment par la question des parkings que mentionne Philippe.
Lucas Chancel, quand on entend le témoignage de Philippe, j'aimerais bien voir votre avis, vous, là-dessus. Il y a l'idée aussi, c'est un peu ce qu'on entend dans la rue. Alors, je ne veux pas du tout lui mettre un gilet jaune sur le dos, Philippe, j'en sais rien. Mais c'est un peu ce qu'on entend aussi ces derniers temps. Je vois que il se passe des choses, oui, mais ça ne me concerne pas moi, en fait. C'est pas moi que ça touche directement. Et pour moi, mon quotidien ne change pas.
Je pense qu'il y a aussi un point important dans le témoignage de Philippe que nous venons d'entendre, c'est la question du financement. Et la question du financement nous permet de traiter aussi cette question de est-ce que les efforts qui sont aujourd'hui mis sur la table sont à l'échelle ? Sont à l'échelle de l'enjeu qu'il y a devant nous. Et finalement, s'il y a assez de financement, alors quelqu'un comme Philippe pourra bénéficier de nouvelles infrastructures de transport, que ce soit vélo, que ce soit bus, que ce soit du train, que ce soit du covoiturage. Il faut aussi des infrastructures pour faciliter l'expérience du covoiturage. Et sur cette question des investissements, moi, il me semble, c'est pas facile de s'y retrouver sur les annonces du gouvernement, sur combien est-ce qu'on met en plus cette année, combien est-ce qu'on met en plus l'année prochaine, par rapport au montant supplémentaire de taxation de l'énergie. Donc j'ai regardé ça depuis quelques jours, je regarde vraiment, j'essaie de voir, de me renseigner en tant que chercheur, mais aussi en tant que citoyen, pour essayer de faire le point là-dessus. La taxation sur l'énergie cette année, en 2018, c'est 3,7 milliards d'euros supplémentaires par rapport à l'année dernière. Combien sur ces 3,7 milliards est-ce qu'on met en plus sur les infrastructures de transport ? Eh bien, c'est pas plus de 200 millions d'euros.
300 millions.
300 millions en 2019. Mmh. En tout cas, c'est ça que j'ai lu. Là, je parle de 2018. Mmh. 2018, pas plus de 200 millions. 2019, 300 millions. Sauf qu'en 2019, on va encore avoir une hausse supplémentaire de la taxe de combien ? De 4 milliards. Donc, on a d'un côté une taxe carbone qui augmente de 3,7 milliards en 2018, 4 milliards en 2019. Et qu'est-ce qu'on met en place pour avoir de nouvelles infrastructures de transport ? 300 millions d'euros. Est-ce que c'est à la hauteur ? On peut se poser la question.
Je pense qu'il ne faut pas raisonner uniquement infrastructure de transport. Peut-être vous avez vu qu'on accompagne aussi les Français pour changer de voiture, pour passer à des voitures qui consomment moins, qui polluent moins, qui coûtent moins cher. L'an prochain, ce sera 1 milliard d'euros. La fiscalité écologique, elle sert aussi à financer des énergies renouvelables. Et dans le quinquennat, l'augmentation des financements pour les énergies renouvelables, ça va être 2 milliards d'euros par an. Donc je pense qu'il faut aussi avoir cette vision globale. Je comprends que vous vouliez l'avoir, c'est un débat, et je pense que c'est aussi le sens du débat que le président de la République veut lancer, qu'on comprenne bien, effectivement, où va l'argent, quels sont les choix qui sont faits, et en particulier le gouvernement porte une fiscalité qui pèse moins sur le travail et davantage sur ce qui pollue, mais moi je comprends qu'on ait besoin de transparence, et c'est aussi le sens de l'exercice qu'on va engager demain.
Alors, pardon, allez-y, vous voulez répondre, Lucas Chancel, on va retourner au standard.
Juste un point, je pense que là-dessus, il faut quand même avoir les idées au clair. C'est le budget total sur la transition énergétique, il augmente de 1 milliard entre 2017 et 2018. Le budget total de votre ministère, celui de la transition écologique et solidaire, c'était 32 milliards l'année dernière, 33 milliards cette année, 34 milliards l'année prochaine. Donc au total, le supplément, l'incrément investi dans la transition énergétique, c'est 1 milliard de plus cette année et ça sera 1 milliard de plus l'année prochaine. C'est ça qu'il y a en plus. La taxe carbone, je reviens encore sur les volumes, c'est 4 milliards cette année, 3,7, et 4 milliards l'année prochaine. Donc on n'a qu'un quart des recettes de cette taxe qui sont allouées à l'ensemble des mesures nécessaires pour la transition énergétique. C'est le transport, c'est aussi l'énergie dans le logement, c'est aussi le soutien aux renouvelables. Et d'ailleurs, le soutien aux énergies renouvelables a baissé entre 2017 et 2018. Il va réaugmenter l'année prochaine, mais il a baissé.
Je pense qu'on va perdre un peu tous les auditeurs. La fiscalité écologique, c'est pas une fiscalité en plus.
Mais le différentiel, c'est important.
Non, mais c'est... j'entends bien, mais vous savez, dans l'an prochain, au total, on baisse de 6 milliards d'euros ce qui est prélevé sur les ménages. Il y a 4 milliards d'euros de taxes d'habitation en moins, il y a 4 milliards d'euros de cotisations sur les salaires en moins, et il y a 2 milliards de fiscalité supplémentaire sur les ménages sur, effectivement, les carburants, le fuel. Donc, faut pas non plus, enfin, c'est aussi un choix, de mettre moins de charges sur le travail. J'entends bien que chaque citoyen se fait pas forcément le lien entre le fait qu'au 1er octobre, il a vu disparaître de son bulletin de salaire des charges sur la maladie et l'assurance chômage. Et puis, en effet, et Moi, je suis consciente que c'est compliqué à un moment où, en plus, le cours du baril a augmenté. Il a depuis, il n'a pas eu d'augmentation de la fiscalité au mois d'octobre. Il n'a pas eu d'augmentation de la fiscalité au mois de mai. Il y a une augmentation du cours du baril. Les trois quarts des augmentations des carburants, c'est l'augmentation du cours du baril. Mais effectivement, il y a des choix qui méritent d'être expliqués. Et effectivement, moi je vous dis, c'est pas de la fiscalité en plus, ça sert aussi à financer les allègements de charges sociales.
Et aussi à financer les allègements de fiscalité sur le capital. On sait qu'il y a 5 à 7 milliards d'impôts en moins sur les 1% les plus aisés. Une partie des recettes de cette fiscalité carbone, malheureusement, on peut dire qu'elle sert aussi à financer ces baisses-là.
Il y a une quête de sens, malgré tout, de la part des gens qui nous écoutent et de la part des gens qu'on a vus dans la rue. Et le sens, effectivement, c'est à la fois le différentiel, c'est ce que je paye moi pour arriver à faire quoi, pour aller où, y compris avec ma voiture. Bonsoir, Jade.
Oui, bonsoir, merci beaucoup de m'avoir.
Je vous en prie, allez-y.
Je suis enseignante dans l'Ain. Et j'habite en Haute-Savoie, et la Haute-Savoie est une région qui est particulièrement polluée par le trafic routier, en fait, et routier, que ce soit les personnes comme vous et moi, et ou les gros transporteurs. Et moi, je fais du coup 30 km de route aller et 30 km de route retour tous les jours pour aller travailler. Et je suis pourtant une des personnes de mon entourage qui a le plus envie de faire changer les choses et de faire bouger les choses pour améliorer nos conditions de vie et les conditions de vie de la planète aussi. Et du coup, je me demandais, en milieu reculé, en milieu rural, où il n'y a pas de train, il y a une ligne seulement de bus pour faire vraiment à peine 10 km, et où, moi personnellement, mes collègues, ils n'habitent pas à côté de chez moi. Donc comment je mets en place le covoiturage, comment je prends les transports en commun, comment je fais du vélo, parce que bon, je transporte quand même des affaires pour enseigner, donc je suis pas vite sur mon vélo.
Et puis 30 km, c'est beaucoup sur un vélo quand même, faut reconnaître.
Voilà, exactement, ouais. Exactement.
Ça monte,
donc,
non
oui, en plus, c'est quand même un climat et du relief assez particulier. Donc, je me demande quelles sont mes alternatives, parce que vraiment, j'aimerais les trouver. Alors, avoir une voiture électrique, c'est une bonne idée, mais là, ma voiture, elle est encore très, très viable et je me vois mal l'emmener et la vendre. Ce serait pas non plus très écologique, finalement. Donc, en fait, quelles sont mes opportunités, quelles sont mes chances d'améliorer la condition dans laquelle je suis.
Merci. Merci, Jade. Merci pour votre témoignage. Elisabeth Borne, elle est coincée, Jade, au fond. Mais finalement, comme l'était Philippe précédemment, qui veut bien utiliser une alternative, être moins polluante, mais elle ne peut pas, elle n'y arrive pas. Oui. Qu'est-ce qu'on répond à Jade ?
Alors, ce que moi je peux lui répondre, c'est que c'est évidemment pas depuis Paris qu'on va être capable de lui proposer une solution adaptée et qu'un des objectifs vraiment importants de la loi mobilité, c'est que les collectivités, en fait, les communes, les intercommunalités se saisissent de ce sujet. Et aujourd'hui, il faut avoir en tête que sur 80% de notre territoire, les collectivités n'ont pas pris cette compétence. Et donc, du coup, je pense que les Français sont un peu comme Jade, ils sont tout seuls face à leurs questions de mobilité et ils doivent s'organiser tout seuls. On va aider les collectivités, leur simplifier cette compétence mobilité pour que au plus près du terrain, au plus près des besoins, les collectivités se saisissent de ce sujet et puissent apporter des réponses. Ça peut être effectivement peut-être du transport à la demande, ça peut être du covoiturage, ça peut être aussi des véhicules en autopartage pour peut-être se rabattre sur une ligne de transport en commun, de TER. Donc, vous voyez, c'est pas depuis Paris qu'on peut apporter ces réponses. Et donc, l'implication des collectivités est essentielle, l'implication des entreprises aussi. Et avec la loi, l'idée, c'est vraiment de leur donner tous les outils, de leur faciliter la vie et de leur donner une boîte à outils pour qu'ils puissent, en discussion avec les citoyens, en discussion avec les entreprises, vous proposer au plus près des solutions.
Est-ce que c'est à ça que va servir cette autorité organisatrice de la mobilité, par exemple ?
Alors c'est bien ça. Derrière ce terme un peu abscon, l'idée c'est que c'est votre commune, votre intercommunalité. Bien souvent, je vous dis sur 80% du territoire, c'est considérable. Les communes, les intercommunalités ne se sont pas saisies de cette compétence parce que jusqu'à présent, on leur mettait des obligations très compliquées, à commencer par l'obligation de faire du transport public des lignes de bus régulières. Et ça n'est pas du tout la solution adaptée partout. Donc on va simplifier, on va supprimer cette obligation, et puis on va leur donner cette boîte à outils, on va les accompagner, par exemple, pour développer des véhicules électriques en libre-service. C'est ce qu'on a fait dans plusieurs territoires en France, où on aide à financer des bornes de recharge électrique, des véhicules en libre-service que vous pouvez avoir en complément de votre voiture, et qui sont le transport, enfin qui sont l'alternative au transport en commun tel qu'on le connaissait. Mais vraiment, pour moi, les solutions, et c'est la loi que j'ai préparée, ça fait des mois que je la discute avec les élus, avec leurs associations, avec les associations, les ONG, avec les entreprises, parce que je suis convaincue que c'est dans les territoires, au plus près des réalités, qu'on trouvera les bonnes réponses.
Lucas Chancel, je ne vous ai pas oublié, mais je voudrais qu'on écoute Martine, qui nous appelle de Seine-et-Marne. Bonsoir Martine.
Oui, bonsoir à tous. Merci pour la qualité de vos émissions, que je suis avec beaucoup d'assiduité. Moi, je voulais poser la question, dans la boîte à outils, est-ce qu'on ne pourrait pas y mettre les employeurs qui pourraient éventuellement prendre en charge également cette problématique? Je m'explique. Certaines grosses entreprises mettent en place des bus, des espèces de ramassage, en fait, pour éviter à leurs salariés de prendre leur voiture individuelle le matin et le soir. Est-ce qu'on ne pourrait pas inciter ces entreprises à généraliser un peu ce système-là qui apparemment a l'air de bien satisfaire les employés des entreprises? Voilà.
Merci Martine.
Et je voulais rajouter aussi à Madame la Ministre qu'il ne faut pas oublier que dans les zones rurales, on nous a vraiment enlevé tous les services publics et qu'il faut parfois faire de nombreux kilomètres, voire 30, 40 kilomètres pour trouver un de ces services-là. C'est une problématique qu'il ne faut pas oublier.
Et voilà, et on y va en voiture pour aller chercher ce service public. Un mot, Lucas Chancel, sur les employeurs, en fait. Jusqu'à quel point, et y compris fiscalement, on devrait, on doit, on pourrait, je ne sais pas, vous choisirez ce que vous voulez, se reposer plus sur l'employeur. Je pense aussi à la proposition des fameux 400 euros, par exemple, qui sont pour l'instant sur la base du volontariat, si on fait du covoiturage ou qu'on vient en vélo. Jusqu'à quel point l'employeur, selon vous, pourrait être plus participatif?
Je pense qu'il faut mettre à contribution l'employeur. C'est d'ailleurs l'une des propositions, il me semble, dans la loi qui est proposée aujourd'hui, de défiscaliser les aides transport aux employeurs. Madame la ministre pourra développer ce sujet-là. Il me semble néanmoins que si on regarde les exemples étrangers où la mise en place de ces taxes carbone ont été un succès, ont fonctionné, notamment parce que les individus qui étaient soumis à ces taxes ont réussi à leur trouver du sens à ces mesures-là, eh bien c'est quand les recettes de ces taxes ont été largement investies dans deux choses. Un, les investissements sur les infrastructures qui permettent une transition de long terme. Infrastructures de transport, infrastructures qui permettent de se chauffer différemment dans les logements. Parce que là, on parle de transport, mais il y a aussi évidemment la question de se chauffer l'énergie dans le logement. Et deux, l'accompagnement à court terme, des ménages, des individus contraints. Je reviens sur l'une des phrases qui est ressortie de l'entretien de l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, il y a quelques jours, qui dit qu'on n'a même pas été capable, en prévoyant cette hausse de la fiscalité sur les carburants, d'affecter 10%, ne serait-ce que 10% des nouvelles recettes à l'accompagnement des ménages contraints. On voit que d'autres choix ont été faits, très différemment, dans un pays comme la Suisse, juste à côté de chez nous, trois quarts des recettes ont été utilisées pour aider des personnes comme Philippe, pour aider des personnes comme l'auditrice qui vient d'intervenir, à payer leur facture d'énergie pour prendre leur voiture ou à payer leur facture d'énergie pour se chauffer. Donc il y a une dimension accompagnement des ménages contraints. Et encore une fois, ici, on a un total de à peu près 300 millions d'euros ou 400 millions d'euros si on prend en compte transport et logement. C'est pas la hauteur de la hausse des taxes sur l'énergie. Et je pense qu'il faut vraiment prendre en compte ça si on veut donner du sens à ces mesures.
Bon, je pense qu'on va pas avoir le débat du budget clairement, il y a des mesures pour accompagner les ménages modestes. Le chèque énergie qui a été mis en place en 2018, qui a augmenté de 50 euros en 2019, on passe de 3,6 millions de personnes à près de 6 millions de personnes pour accompagner effectivement les ménages les plus modestes. Je vous disais, il y a de l'ordre de 1 milliard d'euros pour aider les Français à passer à des voitures plus propres. Mais moi, je voudrais revenir sur la question, sur le rôle des employeurs. Moi, je pense qu'effectivement, il est majeur. Il ne faut pas oublier qu'en France, les employeurs, d'abord, ils financent les transports publics au travers du versement transport. Mais je pense qu'ils peuvent jouer un rôle actif, effectivement, pour aider les salariés à organiser leur mobilité. Alors, ils pourront, en région parisienne, vous savez, dans toutes les grandes villes, ils financent la moitié de l'abonnement de transport en commun aussi. Mais quand vous n'avez pas de transport en commun, bah, du coup, pour l'instant, l'employeur ne vous aide pas. Le forfait mobilité, ça permettra aux employeurs, effectivement, d'apporter 400 euros sans fiscalité.
Mais c'est sur volontariat. Et pourquoi pas l'imposer ? Non mais sérieusement, après tout.
Bah, vous savez, on nous dit aussi qu'on est dans un pays dans lequel on n'arrête pas de créer des obligations. Moi, je suis convaincue que les employeurs se préoccupent, et on va les inciter à se préoccuper, de la mobilité de leurs salariés. Et ils peuvent jouer au-delà de ce forfait mobilité pour accompagner ceux qui utilisent justement le covoiturage. Ils ont en effet, comme dit madame, un rôle à jouer pour organiser le covoiturage. C'est manifestement, enfin c'est clair, c'est au sein des entreprises ou en inter-entreprise, quand on a plusieurs entreprises sur un site, qu'on peut justement permettre aux salariés de trouver la personne qui habite pas très loin, qui pourra venir au travail avec vous. Et puis, ce qu'évoque madame sur le fait que les entreprises, par le passé, avaient aussi des systèmes pour aller chercher les salariés, c'est justement ce qu'on veut aussi soutenir. Moi, j'étais en Eure-et-Loir il n'y a pas très longtemps, et on a une entreprise qu'on va accompagner pour former ses salariés, passer le permis D qui permet de conduire des cars, pour justement aller chercher ses collègues le matin. Donc oui, je pense que les employeurs et les collectivités ont un rôle essentiel à jouer pour trouver des solutions dans les territoires.
Mais on est bien d'accord que ça marche dans... Alors évidemment que ça ne peut pas marcher tout le temps non plus, mais enfin ça marche dans certains cas seulement. S'il faut aller chercher les enfants à l'école, par exemple, on ne va pas y aller avec le bus de ramassage.
Bien sûr,
s'il faut aller faire des courses, on n'ira pas avec le bus de ramassage. Ceux qui habitent plus loin que d'autres, etc. Enfin, tout ça est moins simple, en fait, que ça en a l'air, Elisabeth Borne, un petit peu quand
Alors,
même.
Alors, moi j'évoque le rôle des employeurs, évidemment, dans les trajets domicile-travail. Et ensuite, effectivement, hein, moi, vous savez, ça fait 18 mois que je répète que ces enjeux de mobilité sont très importants, qu'on a une politique d'investissement dans les infrastructures qui a abandonné certains territoires et qu'il faut qu'au plus près du terrain, on trouve des solutions pour permettre effectivement aux personnes âgées qui n'ont pas de voiture, pour permettre aux jeunes qui n'ont pas de permis d'avoir une possibilité de mobilité. Et c'est ce à quoi on travaille, c'est la boîte à outils qui est proposée. On va aussi baisser le coût du permis, faciliter l'obtention du permis de conduire avec des délais plus courts. Mais effectivement, c'est pas depuis Paris, j'en suis convaincue, c'est les collectivités proches du terrain qui doivent pouvoir analyser les besoins de mobilité des citoyens et apporter des réponses avec toutes ces nouvelles mobilités.
Bonsoir Marc.
Bonsoir Fabienne Saint-Hès, bonsoir Madame la Ministre et bonsoir à tous.
Bonsoir.
Votre projet de loi mobilité, d'après ce que j'ai entendu, prévoit 350 millions pour favoriser le vélo en ville.
Mais quid en ville,
entre les villes et dans les villages ? Je suis moi-même dans un village de 1500 habitants, il n'y a aucune piste cyclable, je vais chercher mon pain à vélo, quelquefois c'est un peu risqué. Et donc est-ce qu'il ne faudrait pas obliger ou inciter financièrement les collectivités, je pense en particulier au département, à créer des pistes cyclables au moins dans les agglomérations et au moins sur les axes fréquentés ?
Merci pour votre remarque. Marc, quand on habite un village de 1500 habitants, Elisabeth Borne, est-ce qu'on est considéré comme une ville de quelle taille pour pouvoir imposer ce genre de choses ?
Alors, je voudrais dire vraiment que le fonds vélo qu'on met en place, ça n'est pas que pour les grandes villes. Hein. Ce fonds vélo, il va permettre d'accompagner les collectivités quand elles ont des investissements importants à faire sur les pour créer des itinéraires cyclables continue. Par exemple, si on a une piste cyclable qui arrive du mauvais côté du réseau ferré, que la gare est de l'autre côté. Mais on accompagne également toutes les collectivités avec les dotations que l'État peut accorder localement, dans les départements. Ça sera 500 millions d'euros sur le quinquennat pour accompagner les projets de développement d'itinéraires cyclables des collectivités. Et ça concerne tout le territoire, pas que les villes.
Allez, je voudrais qu'on enchaîne avec les questions. Bonsoir Pierrick.
Oui, bonsoir à tout le monde, Madame la Ministre et toute l'équipe de France Inter que j'écoute tous les matins. Et ma question est la suivante, c'est que n'y a-t-il pas un problème de concentration de l'activité économique et donc de l'emploi sur des métropoles qui font des entonnoirs, entonnoirs d'emploi, entonnoirs de transport avec difficulté de circulation. J'étais DGS moi dans l'agglomération de Montpellier, puis dans l'agglomération de Brest et enfin dans l'agglomération de Narbonne. Et je pense qu'il y a un problème d'aménagement du territoire pour que l'économie soit répartie sur les territoires de manière à ce qu'il n'y ait moins de déplacements d'emploi. Et je me demande si, dans une concertation avec les régions notamment, il n'y a pas une évolution à faire pour une répartition de l'activité économique et donc de l'emploi et donc des missions des transports sur des territoires moins consommateurs que les métropoles, parce que tous les maires de métropole, quels qu'ils soient, ont tous en mission de mettre en valeur leur propre métropole sans beaucoup se soucier de la répartition sur le territoire.
Merci beaucoup Pierrick. Lucas Chancel, selon vous.
On voit bien ici qu'il y a un enjeu de temporalité, c'est-à-dire que si l'objectif c'est de déconcentrer certaines métropoles, de rapprocher certains bassins d'emploi de bassins de population peut-être plus ruraux, c'est pas quelque chose qui peut se faire en quelques années. Et si vous voulez, dans cette période de transition, avant d'avoir un système de transport qui est cohérent avec un système de transport public qui est cohérent avec les lieux d'habitation et les lieux d'emploi, on a besoin de ces mesures d'accompagnement. Une des mesures qui est proposée suite à la crise des gilets jaunes par Édouard Philippe il y a quelques jours, c'est notamment d'élargir cette mesure qui s'appelle les frais réels. Et de dire que les petites voitures seront davantage remboursées quand elles utilisent les frais réels. Et il semblerait que l'accent ait été mis sur cette utilisation de cette mesure, de cette déduction fiscale des frais réels, pour accompagner les ménages qui habitent aujourd'hui loin et qui vont continuer d'habiter loin de leur lieu de travail dans les 3, 4, 5, peut-être 10, 15 ans à venir. Je pense que ce type de mesure, et j'aimerais bien aussi entendre la réaction de Madame la Ministre sur ce sujet-là, ce type de mesure oublie, en mon sens, encore une fois, la question sociale. C'est-à-dire que les frais réels, c'est une mesure qui bénéficie aujourd'hui aux Français imposables. 43% de la population. Donc on oublie plus de la moitié de la population quand on pense les réponses à ces questions de court terme, celles qu'on doit traiter avant de transiter vers un modèle qui est plus durable, plus soutenable, qui va mettre quelques décennies à venir. Et donc, les frais réels, il me semble que c'est une mesure qui part peut-être d'une bonne idée, mais qui oublie la problématique sociale qui est en jeu.
Évidemment, on n'a pas fait que cette mesure. On a un chèque énergie qui va concerner tous les ménages, au contraire les 20% de ménages les plus modestes.
Ça, c'est sur le logement.
Vous savez, je pense que les gens, quand ils dépensent de l'argent pour le fuel ou quand ils dépensent de l'argent pour leur carburant, c'est toujours de l'argent. Donc si on accompagne effectivement avec le chèque énergie les ménages, les 20% de ménages les plus modestes, je pense que c'est important de les accompagner. Et les mesures pour aider au changement de voiture, on les a renforcées pour les ménages non imposables. Mais je pense que la question qui a été posée par votre auditeur est effectivement intéressante. Si on ne fait pas attention à nos choix d'investissement dans nos grandes infrastructures, alors oui, je pense qu'on accentue la métropolisation, comme on dit, c'est-à-dire la concentration des emplois dans les grandes villes, pendant que les habitants sont rejetés de plus en plus loin et doivent faire des trajets très longs pour se rendre au travail. Et si on ne donne pas des infrastructures de qualité aux villes moyennes, par exemple, pas très loin de chez vous, on a Toulouse, Castres. À Castres, il y a une entreprise qui vous dit « Moi, je ne peux pas rester ici si on ne me donne pas une route correcte pour aller à Toulouse. » Donc, nos choix d'investissement dans les transports, le fait de bien relier les villes moyennes, les petites villes aux grands axes et aux métropoles, c'est vraiment le choix qu'on fait dans nos priorités d'investissement. et ça va éviter que tous les emplois se concentrent au même endroit pendant que les habitants doivent aller de plus en plus loin.
Le sens de la question de Lucas Chancel, et c'était aussi en creux ce qu'on a entendu de la part de certains auditeurs, c'est aussi l'idée Elisabeth Borne que quand on ne peut rien faire, c'était Jade je crois qui s'appelait, qui disait qu'elle ne pouvait rien faire, quand on ne peut rien faire, on a cette espèce de sentiment de culpabilité au fond, on nous accuse de ne pouvoir rien faire parce qu'on habite trop loin, parce que c'est compliqué et sans faire d'efforts au fond pour l'environnement. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens qui ont le sentiment d'être culpabilisés parce qu'ils n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture et qui effectivement ont du mal à voir quel est le lien entre les impôts qu'ils payent et une possibilité de faire mieux pour aller à leur travail? C'est ça qu'on entend aussi dans la rue en ce moment. Parce qu'effectivement, je veux bien qu'on aligne empiriquement ce qui a été dépensé, ce qui a été donné, les chèques énergie, etc. Mais ce qu'on entend dans la rue aujourd'hui, c'est quelque chose qui dit « moi, je ne peux pas faire différemment, et ce que vous m'offrez ne me parle pas ». Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Est-ce que votre plan mobilité parle à ces gens-là?
Enfin, mon plan mobilité, il vise effectivement à tenir compte de la situation de Français dont on ne s'est pas occupé depuis des années, à la fois en répondant mieux à leurs besoins quand ils sont loin des métropoles, en remettant en état des réseaux ferrés qui ont été négligés depuis des années, qui fait que le train met plus de temps aujourd'hui qu'il ne mettait avant, en s'occupant de remettre en état les réseaux routiers, parce que dans beaucoup de territoires, oui, la voiture restera la colonne vertébrale de la mobilité. Il faut qu'on accompagne nos concitoyens pour qu'elle soit plus propre et plus partagée. Donc, nos choix d'investissement vont vers ces territoires. Et puis, en effet, on doit, avec les acteurs locaux, proposer des solutions alternatives à l'utilisation de la voiture individuelle. Et on doit aussi permettre aux Français de passer à des voitures plus propres. Je pense aussi, vous savez, que, par exemple, pour un ménage non imposable, la prime pour un véhicule électrique d'occasion, c'est 5 000 euros. Et
c'est cher,
et un véhicule d'occasion, mais vous êtes, j'invite tout le monde à regarder le prix des véhicules électriques d'occasion. Donc c'est effectivement une partie significative. Je voudrais aussi que chacun ait en tête que le coût d'utilisation du véhicule électrique, vous savez, c'est 2 euros pour 100 km. Donc il faut aussi tenir compte de ça. Peut-être qu'il faut qu'on continue à travailler, c'est ce que nos parlementaires notamment veulent faire, pour aider à faire un plan de financement pour changer de voiture. Mais clairement, on fait des économies dans l'utilisation tous les jours de la voiture électrique.
On n'a pas le temps de le prendre, Eric, mais je vais prendre votre question dans ma voix, Eric, si vous me le permettez. Je suis conducteur de bus dans une ville moyenne. Je dois remplacer mon véhicule diesel. J'aimerais avoir un véhicule électrique, mais je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture propre et je peux quand même pas y aller en vélo. On n'y est pas encore, Elisabeth Borne, à cette possibilité aussi simple que ça de se dire que chacun pourra acheter une voiture électrique. C'est pas vrai. On n'y est pas.
Je pense bien qu'effectivement, tout le monde ne peut pas acheter une voiture électrique neuve. Mais vous savez, une voiture plus récente, elle consomme 20-30% de moins que les voitures anciennes. Et ça se voit aussi sur effectivement la dépense de carburant.
Lucas Chancel, vous vouliez ajouter quelque chose rapidement, si vous le voulez bien.
Je pense effectivement, pour que tout cela fonctionne, il faut donner les moyens et les moyens financiers de cette transition. Si on fait la somme de tout ce qui a été annoncé par le gouvernement ces derniers jours et aujourd'hui par Madame la Ministre, on reste à une fraction qui est assez faible des recettes de cette taxe carbone investies pour aider les Français à aller vers un système plus durable et les accompagner dans cette transition. Seulement un quart des recettes, c'est à mon avis pas assez.
Comme vous dites, dans transition, il y a transition. Donc on aura largement l'occasion d'y revenir, d'en reparler tout au long de la semaine et au-delà, bien sûr. Je me dois de vous poser la question, puisque dans tous les téléphones sonnent prêts, COP24, on va le faire. Elisabeth Borne, qu'est-ce que vous faites, vous, pour la planète et pour votre vie quotidienne? S'il y a une chose que vous pouvez nous citer, qu'est-ce que vous faites, vous, pour la planète?
Moi, je viens par exemple ici en voiture électrique et quand je peux, je fais des mobilités actives.
C'est la vôtre, la voiture électrique?
C'est celle du ministère.
Et vous, qu'est-ce que vous faites, Lucas Chancel?
J'ai la chance de pouvoir utiliser le vélo tous les matins.
Et c'est comme ça que vous êtes venu. Merci beaucoup. Merci.